Et bonjour, frères et sœurs. Alors, dans notre étude de l'Évangile de Jean, nous avons constaté la semaine passée l'incompréhension générale là, des concitoyens de Jésus, même des propres frères de Jésus, sa famille. L'incompréhension au niveau de l'identité de Jésus, qui il est, pourquoi il agit de telle ou telle manière, ses actions et même ses paroles. On a vu que cette incompréhension-là est de nature spirituel. C'est un aveuglement spirituel qui est causé par trois choses. Le manque de foi, le manque de désir sincère d'obéir à Dieu et le manque de connaissance de Dieu. Mais ça n'empêchait pas Jésus de poursuivre et de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut. Et il s'est rendu à l'une des trois grandes fêtes juives, la fête des Huttes à Jérusalem qui durait une semaine. Pardon. Puis il est allé même à l'endroit, au centre même de toute l'action, au temple, et il a prêché à la foule qui était là. Puis son enseignement n'a laissé personne indifférent. C'était étonnant. On va voir la suite de son enseignement aujourd'hui dans Jean, chapitre 7, 31 à 53. Donc, l'Évangile de Jean, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Jean 7, 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Et là où je serai, vous ne pouvez venir. Les Juifs disaient entre eux, mais où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez venir? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Mais d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, où est né David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et leur dirent, « Et pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Je vous propose qu'on peut voir trois thèmes majeurs dans ce passage-là. On l'a lu en entier parce que les thèmes sont dispersés dans tout le passage. D'abord, il y a une offre qui est faite de la bonne nouvelle à tous. L'invitation, elle est comme universelle. Elle est faite à tous. Mais deuxièmement, on voit que cette invitation-là crée des réactions partagées, même la division, même l'opposition. Et troisièmement, on voit que malgré l'opposition, le plan de Dieu s'accomplit de manière assurée. Donc, voyons d'abord l'offre que Jésus a faite à tous. Qu'est-ce qu'il offre? Versets 37 et 38, il dit, Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, n'importe qui, quiconque a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. N'importe qui a soif est invité à aller à Jésus pour boire. Et il y aura en lui des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas juste un petit robinet qui coule, ça, là. C'est un fleuve, là. C'est pour montrer l'abondance. Et même, c'est l'eau vive qu'on traduit en français, littéralement, c'est l'eau vivante. Comme quand Jésus dit « Je suis le pain vivant venu du ciel ». Mais du sein de celui qui croit en Jésus coule comme de l'eau vivante, de l'eau de vie. Donc, cette invitation de Jésus, elle est très pertinente dans le contexte où il l'a dit. On se trouve dans la fête des huttes. Et la fête des huttes rappelait la marche des Israélites dans le désert. Quand l'Éternel les a libérés de l'esclavage en Égypte, avec 10 plaies, qui ont démontré sa puissance, il les a fait traverser la mer Rouge. Ensuite, il les a conduits, comme un père qui tient son enfant par la main, dans le désert. Et dans le désert, Dieu a fourni au peuple l'eau dont ils avaient besoin. Donc, la fête des huttes rappelait cela, que Dieu a pourvu l'eau. S'il y a une chose qui manque normalement dans le désert, c'est bien de l'eau. Mais pendant 40 ans, ils n'ont pas manqué d'eau. Donc, l'eau dont ils avaient besoin pour vivre venait de Dieu. On a un premier exemple de ça dans Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, c'est l'Éternel qui parle, je me tiens là devant toi sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et l'Éternel fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et un torrent d'eau est sorti d'un rocher en plein milieu du désert pour abreuver le peuple. On apprend aussi qu'à l'époque de Jésus, la fête des huttes comportait plusieurs habitudes, comme ils avaient l'habitude de chanter plusieurs psaumes. Mais les découvertes historiques montrent aussi que pendant la fête des huttes, les Juifs pratiquaient le rite de se déplacer et d'aller puiser de l'eau. Donc, vraiment, la signification de l'eau, là, elle était importante dans la fête des huttes. Donc, sûrement qu'en allant puiser de l'eau, ils se rappelaient que c'est Dieu qui leur donnait l'eau pour vivre. Dieu était leur source vitale. Mais est-ce qu'ils se souvenaient que cette eau-là, dans le désert, avait une signification plus profonde encore? Même une signification spirituelle. Elle servait, le fait que c'est Dieu qui leur donnait l'eau à boire dans le désert, servait à leur montrer qu'ils devaient dépendre de lui dans tout, là. Quand on peut boire de l'eau, on sait qu'on reste en vie parce qu'on a pu boire de l'eau, on a pu étancher notre soif. Ça devrait faire prendre conscience que Dieu est la source de tout ce qu'on a besoin. Donc, le fait que Dieu fournissait l'eau, ça servait à faire prendre conscience au peuple de leur dépendance à Dieu pour toute leur vie entière, et la nécessité donc d'obéir à la parole. Comme Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ni d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il devait faire un lien. Et Paul précise même dans Corinthiens que cette eau-là était justement spirituelle. Elle venait de Christ, même. 1 Corinthiens 10 dit, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, ayant cette révélation-là, que Dieu fournissait l'eau, c'est une révélation spirituelle, c'est Christ, ils auraient dû être portés à obéir à Dieu, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas obéi, ils sont morts dans le désert. Mais on voit l'importance, la signification de l'eau, là, un message spirituel. Et au temps de Jésus, à ce moment-là où Jésus prononce ce discours-là dans le temple, les Juifs avaient devant eux le Christ, là, le rocher devant eux, qui leur prêchait la parole de Dieu, et il leur offrait justement l'eau à boire, l'eau de la vie. Est-ce qu'ils allaient porter attention ou ils allaient faire la même erreur que leurs ancêtres? Pendant la fête des huttes aussi, les Juifs se rappelaient des promesses de salut. les promesses qui avaient été faites pour l'avenir. Et le thème de l'eau revient souvent. Dans Ésaïe 12, on lit « Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. » Une parole que les Juifs se rappelaient du secours de l'Éternel qui s'en venait. Dans Zacharie 13, on lit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. » Donc, une source d'eau qui purifie, qui procure le pardon, qui justifie. Dans Ésaïe 55, on lit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Celle de la bienveillance fidèle envers David. « Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples. » Donc, le fils de David s'en vient. « Je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Donc, pendant la fête des Huttes, étaient rappelées ces belles promesses-là, de la possibilité de se repentir et que Dieu allait pourvoir pour le pardon, pour le salut. Jean ajoute, au verset 39 du passage de ce matin, que l'eau vive que Jésus offre, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, l'Esprit, qui vient habiter dans le cœur du croyant, de celui qui croit en Jésus. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bon, Jean spécifie ici que c'était avant que Jésus soit crucifié, qu'il ressuscite et qu'il monte dans les cieux et qu'il envoie le Saint-Esprit. Ça se passait avant. Donc, ce départ-là, là, où l'alliance éternelle est scellée, où l'Esprit est donné, n'était pas encore arrivé. Donc, ça se passe avant. Mais Jean n'est pas en train de dire que l'Esprit n'avait jamais été donné. On sait dans l'Ancien Testament que les prophètes, les vrais prophètes de Dieu, parlaient par l'Esprit, parce qu'ils étaient saisis par l'Esprit, ils étaient remplis de l'Esprit. Et on comprend même par plusieurs passages que les croyants dans l'Ancien Testament arrivaient à discerner la volonté de Dieu et à lui être fidèles parce que l'Esprit venait transformer leur cœur. Donc c'était grâce à l'Esprit. Il y a un passage intéressant, c'est dans Néhémie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Parce que le peuple d'Israël, à travers les siècles, ont été infidèles à Dieu, mais leur infidélité a augmenté, au point où est-ce que Dieu a appliqué, finalement, la malédiction qu'il avait prononcée dans le cadre de l'Alliance. Et ils ont été déportés de leur pays, de la terre promise. Ils ont dû habiter en exil à Babylone pendant 70 ans. Mais Dieu a permis qu'ils reviennent. Et Néhémie est avec eux, ils ont reconstruit la muraille, et ils se trouvent justement à la porte des eaux. Je pense que ce n'est pas un hasard. Et ils célèbrent la fête des huttes. Et là, la loi est lue à tout le peuple. Et le peuple entend la loi, donc l'Ancien Testament, et ils pleurent. Ils se repentent. Ils sont tristes d'avoir péché contre Dieu, puis ils comprennent, si on a été déportés, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais qu'il a été infidèle ou qu'il a été impuissant. C'est par notre faute, c'est notre péché qui a fait en sorte qu'on a été déporté, qu'on a été en exil. Mais Néhémie leur rappelle la compassion de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, dans la marche dans le désert, l'endroit où c'est comme le plus symbolique là, de l'infidélité d'Israël, c'est lorsqu'ils ont fait ce veau d'or pour adorer un faux Dieu. Et Dieu venait juste de les libérer de l'esclavage. Mais Néhémie rappelle ce qui s'est passé là, dans Néhémie 9. « Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant, « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. Et la colonne de nuit n'a pas cessé de les guider de jour dans les chemins, ni la colonne de feu pendant la nuit, d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent pas, leurs pieds ne s'enflèrent pas. Donc Dieu avait donné l'esprit à certains dans le peuple pour qu'ils comprennent la volonté de Dieu. Et grâce à cela, un groupe a pu être fidèle et Dieu est resté fidèle à son peuple et ne les a pas abandonnés. Donc l'esprit était donné dans l'Ancien Testament. Mais les prophètes annoncent la venue d'une autre ère où l'eau de Dieu est fournie, son esprit, mais comme jamais auparavant. Où l'esprit est fourni à chaque membre du peuple de Dieu, chaque croyant. Dans Ésaïe 44, on lit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. » Dans Ézéchiel 36, on lit « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Donc, ceux qui croyaient puis qui aux promesses de l'Ancien Testament et attendaient ce jour-là, espéraient venir le jour d'une grande repentance et d'une transformation du peuple de Dieu qui allait enfin être fidèle à Dieu, que l'Esprit allait venir en eux. Et Jésus déclare que ce jour-là est arrivé, que toute personne qui a soif vienne à moi, je lui donnerai l'eau de vie. Donc Jésus, par sa déclaration, là, qui a l'air toute courte, il est en train de dire que tout ce que signifiait la fête des huttes s'accomplissait par la venue de Jésus. Le Saint-Esprit qui nous est donné par la foi en Jésus, c'est ni plus ni moins que le salut, c'est le sceau de cette nouvelle alliance-là, cette alliance éternelle. Et c'est, le Saint-Esprit en nous, c'est la source de la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, si vous avez été à lui pour faire de lui votre Seigneur, vous avez prêté allégeance à Jésus, mais son esprit en vous va vous garder pour l'éternité. Même après la mort, jusque dans la nouvelle création, là où va couler le fleuve d'eau de la vie. On lit dans Apocalypse 22, « Il me montra le fleuve d'eau de vie. » C'est une vision de la nouvelle terre, les nouveaux cieux pour l'éternité. « Il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, non plus de rebelles contre Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de lumière, ni d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est toute une promesse. Mais si le fleuve d'eau de la vie coule dans cette place-là et fournit tout ce qu'on a besoin pour vivre éternellement, ça veut dire que cette nouvelle terre, elle est non seulement physique, matérielle, mais elle est spirituelle. C'est en esprit qu'on va vivre pour l'éternité dans la présence même de Dieu. Donc, ce Saint-Esprit-là qui est en nous, c'est un gage que cette promesse-là va vraiment s'accomplir. C'est le début là, de la nouvelle création. Donc, c'est la plus merveilleuse des nouvelles que Jésus nous demande d'annoncer à tous. Ce qu'on a à annoncer au monde pour faire des disciples, c'est la vie éternelle. Il n'y a rien de mieux que ça. L'offre est faite à tous, mais notons que Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi. Donc, c'est seulement ceux qui vont reconnaître qu'ils ont soif, qui vont peut-être être intéressés par ce que Jésus a à dire. Et c'est seulement ceux qui vont être d'accord de mettre leur confiance en lui pour leur sort éternel qui vont pouvoir recevoir cette eau-là, être abreuvés pour l'éternité. Ça nous amène au deuxième thème dans le passage qu'on a lu. C'est que non seulement l'Évangile est annoncé à tous, la bonne nouvelle, mais cet Évangile-là va produire des réactions partagées, même des divisions, même de l'opposition. Et c'est une chose normale parce qu'on est dans un monde de ténèbres et la lumière n'est pas appréciée, n'est pas bien accueillie dans les ténèbres. Donc, certains de la foule concluent que Jésus est le prophète. Après que Jésus a annoncé « Venez à moi, je vous donnerai de l'eau », il y en a qui disent « Wow, c'est vraiment lui le prophète ». Sans doute, c'est une référence à la promesse que Dieu avait faite par Moïse, qu'un jour, un prophète comme Moïse allait venir. Et il allait donner, transmettre la volonté de Dieu pour cette nouvelle ère. Donc, beaucoup de gens attendaient le prophète qui allait venir. Ils ne comprenaient pas que le prophète et le Messie, ça pouvait être la même personne. Bon, certains attendaient le prophète. Et beaucoup de gens aujourd'hui concluent que Jésus est un prophète. Quelqu'un qui est venu, qui est porteur d'un message bon, un message d'amour, un exemple de vie qui est bon, qu'on doit suivre, même si malheureusement il a été rejeté, puis il a échoué dans sa tâche, selon ce qu'il pense. Ça reste quelqu'un qui est porteur d'un message qui est digne qu'on y porte attention. C'est vrai que Jésus est un prophète, même le prophète, mais c'est loin de décrire toute son identité et toute son œuvre. C'est incomplet. D'autres dans la foule disaient, c'est le Christ. C'est le Messie. Donc celui qui va... Ceux qu'ils attendaient, là, ils attendaient un Messie qui allait venir instaurer le royaume de Dieu, qui était le royaume d'Israël, donc il allait les libérer au niveau politique, qu'il allait régner sur eux, qu'il allait redorer, remonter la gloire d'Israël, du royaume de Dieu. Certains avaient réellement cru en Jésus. Le verset 31 dit qu'ils croyaient parce qu'ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils disaient, le Christ, quand il va venir, est-ce qu'il va faire plus de miracles que cet homme-là? Forcément, ça doit être lui. Donc, certains ont cru en lui parce qu'ils ont vu ses miracles. Tout l'Évangile de Jean montre que croire en Jésus à cause des miracles, c'est pas la meilleure des raisons. Mais c'est mieux que rien. Et peut-être parmi eux, certains ont cru pour vrai. Et leur compréhension de qui est Jésus a pu être complétée après la résurrection de Jésus. On sait qu'il y en a 3000 qui se sont convertis à la Pentecôte. Et peut-être que parmi eux, il y en avait qui avaient déjà une idée que Jésus était le Christ avant. On sait que Jésus, en une seule personne, est le prophète attendu, et il est le Messie, il est le Christ. Il est plus que ça même. Il est Dieu, le Fils éternel, il est le Créateur. Mais ici, la foule témoigne, et il y en avait de plus en plus qui chuchotaient, puis hey, « je pense que c'est le Christ, est-ce que c'est lui? » Là, ils allaient chercher leur ami, « Viens l'entendre, je pense que c'est celui qu'on attend. » Ça a soulevé une grande opposition, parce que les chefs religieux ne voulaient pas entendre dire qu'un homme viendrait les détrôner. En fait, eux, ils n'attendaient pas réellement le Messie. Ils étaient bien comme ça. C'est eux qui avaient la primauté. Donc, ils n'étaient pas contents. Et ils donnaient comme contre-argument, « Ça ne peut pas être Jésus, le Christ, parce qu'il vient de la Galilée. » Et on sait que le Christ doit naître à Bethléem, dans la ville de David. Je pense qu'ici, Jean nous rapporte ça, cet argument-là, d'une manière ironique. Parce qu'il sait que ses lecteurs, les lecteurs de l'Évangile de Jean, ont peut-être déjà lu les autres évangiles aussi, Matthieu, Luc. On sait que Jésus est né à Bethléem. Donc, s'ils avaient fait un peu de recherche, ils auraient su que Jésus est né à Bethléem. Et le verset 43 dit que, à cause de Jésus, il y a eu une division dans la foule. Là, il y a eu des clans, puis... Ça devait être un grand débat, là, peut-être des discours même violents. Il y a eu une division, une scission. Donc, Jésus était la cause d'un trouble dans la paix publique, si on peut dire. C'est pas fort dans un contexte d'aujourd'hui de troubler la paix publique avec un discours chrétien, hein, dans un contexte de laïcité. Mais Jésus, à cause de... C'est pas ce qu'il voulait, mais son invitation à aller à lui, à créer la division. Et même quelques-uns ont voulu se saisir de lui pour l'arrêter. La division a aussi été manifestée entre les chefs religieux et la foule. Donc, les chefs étaient censés être là pour être des guides, des bergers pour le peuple, mais là, ça a manifesté qu'ils étaient divisés. Donc, parce que certains de la foule croyaient en Jésus, les pharisiens ont qualifié finalement tout le peuple de gens qui ne connaissent pas la loi, même des maudits, des gens qui sont facilement séduits. Puis eux, les chefs, prétendaient qu'ils ne pouvaient pas être séduits parce qu'ils avaient la connaissance. Donc, si ces gens-là croient en cet homme-là qui les séduit, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ce sont des maudits. Nous sommes des bénis. Nous avons la connaissance. Donc, ils prétendaient ne pas pouvoir être séduits grâce à leur connaissance. Puis, ils savaient d'ailleurs qu'aucun prophète n'était jamais venu de la Galilée. Encore là, c'est ironique. Parce que s'ils avaient fait des recherches, s'ils avaient pris la peine d'enquêter sur cet homme-là, sur Jésus, ils auraient su qu'il est né à Bethléem, en Judée. C'est ironique aussi parce qu'ils prétendent avoir la connaissance, mais il y a plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament qui venaient de Galilée, dont Jonas, Nahum et peut-être d'autres. Donc, ils étaient même dans l'erreur. C'est pas pour rien que Jean nous rapporte ça ici. La connaissance enfle et nous fait penser qu'on est sans erreur, mais en réalité, c'est eux qui étaient le plus dans l'erreur ce jour-là. Ils refusaient de voir la vérité. Nous devons nous attendre, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus, à ce que les réactions soient partagées, que ça provoque la division. Jésus nous avertit même, lorsque vous allez accomplir ma mission de faire de toutes les nations des disciples, attendez-vous à des réactions diverses, et de la division et même de l'opposition. Jésus nous demande de le suivre malgré la division, malgré l'opposition. C'est même une preuve de notre véritable allégeance. Si on est prêt à suivre Jésus, malgré l'opposition, on prouve qu'on est vraiment son disciple. Dans Matthieu 10, Jésus dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Mais celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie, la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Donc, d'abord, on a vu que l'offre de la bonne nouvelle de Jésus est offerte à tous, mais deuxièmement, elle provoque des réactions diverses, dont la division et l'opposition. Mais il y a un troisième thème qui apparaît à quelques endroits dans ce passage-là, c'est que le plan de Dieu, malgré l'opposition, s'accomplit de manière assurée. Sinon, à quoi bon aller devant l'opposition et supporter cette souffrance-là qui est liée? C'est parce qu'on sait que la fin est assurée par Dieu qu'on peut supporter et persévérer. Donc, le dernier verset du passage qu'on a lu la semaine passée, le verset 30, disait, il cherchait à arrêter Jésus, mais personne ne portait la main sur lui parce que son heure n'était pas arrivée. Donc, dans le plan de Dieu, ce n'était pas le temps que Jésus soit arrêté, jugé et mis à mort. Ce n'était pas encore le temps. Ça va arriver plus tard à la fête de Pâques. Donc, comment ça s'est passé pour que les gens qui voulaient l'arrêter n'ont pas été capables de le faire? Est-ce que Jésus s'est juste faufilé? Ou il y a des gens qui les ont bousculés? Je ne sais pas comment c'est arrivé, puis peut-être que Jean ne le sait pas non plus ici, mais Dieu est intervenu pour faire en sorte que Jésus ne pouvait pas être arrêté. Dieu ne l'a pas permis. Le même phénomène est répété au verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne portait la main sur lui. Même les principaux sacrificateurs ont eu comme plan au Sanhédrin de dire, on l'arrête maintenant, c'en est trop. Ils ont envoyé les gardes pour le faire. Les gardes avaient le devoir de leur obéir. Ils ont envoyé les gardes du temple arrêter Jésus au verset 32. Mais les gardes sont arrivés puis ils ont entendu Jésus. Ils ont été stupéfaits. Ils se sont dit, on ne peut pas l'arrêter. Ils sont retournés les mains vides, bredouilles, au risque même de se faire réprimander par le Sanhédrin. Mais d'un commun accord, ils sont retournés sans avoir touché à Jésus. Pourquoi? C'est certainement Dieu qui a touché leur cœur. Dieu peut faire pencher le cœur de n'importe qui. Donc, Dieu les a convaincus là, qu'ils ne devaient pas toucher à cet homme-là. Ils sont retournés et ils se sont fait réprimander d'ailleurs. Ils ont peut-être subi des conséquences. On voit aussi que Dieu a utilisé Nicodème, que Dieu avait commencé à préparer son cœur quelque temps avant. Là. Nicodème, c'est un des pharisiens, un parmi eux, qui était allé voir Jésus de nuit, parce qu'il savait que c'était dangereux pour sa réputation. Il avait interrogé Jésus, et Jésus lui a révélé comment être sauvé, comment naître de nouveau. Et c'est à Nicodème que Jésus a révélé, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça a sûrement rentré dans la tête de Nicodème. Est-ce qu'il s'est converti à ce moment-là? Est-ce qu'il a saisi l'Évangile? On ne sait pas, mais Dieu travaillait son cœur. Au point où est-ce que ce jour-là, où les pharisiens voulaient arrêter Jésus, il est intervenu pour prendre sa défense. Et l'argument qu'il a donné est bon, est valable. Il dit, est-ce que la loi, vous dites que vous êtes des observateurs de la loi, est-ce que la loi nous permet de condamner un homme avant même d'avoir fait enquête, avant même de l'avoir entendu? Ils étaient bouchés, mais on voit que ce n'est pas la vérité qu'ils cherchaient. Et là, ils se sont tournés contre Nicodème. Ils l'ont même acculé au pied du mur pour lui dire, « Toi aussi, là, t'es-tu un Galiléen? Tu t'es fait séduire? » Mais il a réussi, par l'intervention de Dieu en lui, à freiner ses collègues et temporairement, il a mis fin à l'action d'arrêter Jésus et chacun est retourné chez soi. Donc, Dieu utilise des événements, il utilise des personnes pour accomplir son plan à la perfection dans les moindres détails. Il y a une dernière chose qui montre que le plan résolu de Dieu s'accomplit, c'est la déclaration que Jésus donne au verset 33 et 34. Il dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Bon, j'ai fait le signe par en haut, mais sûrement Jésus n'a pas fait ça. Il dit, « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Là, les chefs juifs étaient perplexes. Mais où il s'en va, que nous, on n'aurait pas accès à aller. Est-ce qu'il s'en va chez les Grecs, chez les païens? Donc, ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Ici aussi, je pense que c'est ironique, parce qu'on apprend par la suite qu'effectivement, la parole de l'Évangile va se répandre chez les païens. C'est comme si eux-mêmes avaient comme prophétisé quelque chose qui allait venir. Mais Jésus n'était pas en train de parler de ça. Il était en train de parler qu'il n'allait pas aller dans un lieu, d'une localisation physique sur la terre. Il allait retourner au ciel, auprès de son Père. Et Jésus savait ce qu'il devait passer pour ensuite être glorifié. Il devait passer par la mort, être mis au tombeau. Mais le troisième jour, il allait ressusciter. Donc, toute leur haine, leur manigance pour se saisir de lui et le tuer, Jésus déclare, ici indirectement, que c'est le plan de Dieu. Il devait passer par la mort, ce qui allait donner l'illusion aux chefs juifs qu'ils avaient eu la victoire sur lui. Mais en réalité, c'était une étape dans le plan de Dieu, pour la victoire de Christ, qui allait ressusciter et monter dans la gloire auprès de Dieu. Donc, il leur dit, vous ne pouvez pas aller à cet endroit-là, parce que ce n'est pas un endroit où les hommes peuvent aller. Là. C'est dans la présence de Dieu, dans les cieux. Mais je pense que ce que Jésus est en train de dire là, c'est aussi un message de condamnation. Bien, j'en ai pas une preuve, mais j'ai l'impression, parce que ce qu'il est en train de dire à ces Juifs-là, c'est « vous ». Il est en train de s'adresser aux chefs juifs qui sont en opposition à lui. Il est en train de dire « vous ne pourrez pas aller à cet endroit ». Je pense qu'il est en train de leur dire « vous êtes condamnés, là. Vous qui vous opposez à moi, qui refusez de croire, vous ne pourrez pas aller au ciel. Votre destinée, c'est l'enfer, c'est la condamnation. » Donc, rejeter ou accepter Jésus sur la terre, a une incidence directe. C'est ce qui détermine, en fait, notre destinée. Si on va au ciel avec Jésus, le Père céleste, ou si on va en enfer. Parce que Jésus va reparler encore de l'endroit où il s'en va à ses disciples, mais là, il va en parler d'une manière différente. Dans Jean 14, 3, il dit, « Si je m'en vais, je vous préparerai une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il n'a pas dit ça au chef religieux qui refusait de croire en lui. Il a dit ça à ses disciples. Et dans sa prière aussi, au chapitre 17, il dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, il a prié pour ses disciples, mais il ajoute au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est nous qui croyons grâce à la parole transmise par les disciples de Jésus. Donc, cet endroit-là qui est inaccessible aux hommes, si on croit en Jésus et qu'on reçoit l'Esprit, on va être un jour réunis avec Christ dans les cieux et pour l'éternité sur la nouvelle terre, dans la nouvelle création. Donc, Jésus devait passer par la mort et les Juifs, même s'ils allaient penser avoir eu la victoire, c'était une étape dans le plan de Dieu. Si donc le ministère de Jésus a accompli le plan de Dieu dans les moindres détails, tout comme prévu, on peut être sûr que, comme promis, Jésus va être avec nous jusqu'à la fin du monde, à tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans notre mission de faire des disciples. Même lorsqu'on rencontre de l'opposition, ou qu'on reçoit de la haine, de l'incompréhension, de l'injustice à cause de notre foi, Jésus est là, comme il l'a promis. L'ennemi ne pourra nous faire du mal que lorsque Dieu le permettra, et parce que ça fait partie de son plan. Donc, c'est encourageant, et c'est encourageant d'autant plus qu'on sait que son plan mène à une fin heureuse pour chacun de nous. Donc, la souffrance est pour un temps, pour un court temps, mais la fin est heureuse. Une libération totale. Les trois thèmes de ce passage-là qu'on a étudié aujourd'hui se voit dans tout le Nouveau Testament, en fait. Ils sont le salut en Jésus qui est offert à tous, une invitation universelle, mais la division et l'opposition que cette invitation-là donne. Certains se convertissent, mais d'autres non, mais personne n'est indifférent. En soi, que les gens deviennent pour Jésus ou deviennent contre Jésus. Mais le plan de Dieu, troisièmement, s'accomplit assurément. Et il inclut la récompense pour les croyants, mais la condamnation pour les non-repentants. Le retour de Jésus, il vient sauver les siens, mais il va venir aussi pour juger les nations. Et c'est intéressant que c'est la conclusion de toute la Bible, dans Apocalypse 22. Je vais vous demander de tourner. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 17 à 21. Remarquez les trois thèmes qui sont présents dans Apocalypse 22, 17 à 21. Donc, l'offre qui est faite à tous, mais l'opposition qui est là aussi, mais qui va être condamnée, et le plan de Dieu qui s'accomplit assurément. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Amen, ça veut dire, c'est vrai, en vérité. Jésus dit, « Je viens bientôt. » Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.